Léane gisait à ses pieds. Il l'avait frappée violemment à l'arrière du crâne avec une bûche, alors qu'elle enfonçait ses bagages dans le coffre de sa voiture. Elle ne saignait pas et respirait encore. Le silence du sous-sol l'enveloppait désormais, juste perturbé par sa lourde respiration et le souffle du vent contre la porte du garage. La première chose à laquelle il pensa fut de remettre avec soin la bûche en place. Pas de précipitation, surtout. Mesurait chaque geste. Ce qui se faisait avoir, coincé par les flics, omettait toujours un petit détail à cause de leur empressement. Dans un premier temps, le téléphone portable. Il fouilla dans la poche de blouson de Léane et préleva l'engin qu'il déposa sur le siège passager. Puis il souleva le corps inanimé et l'enferma dans le coffre du 4x4. Les bagages en main, il remonta avec calme et rangea les affaires de Léane à leur place, dans les armoires de la chambre. Il glissa la valise à roulette dans un coin. Rien ne devait indiquer que Léane souhaitait quitter la villa. Par la fenêtre de la chambre, il fixa longuement la grande gueule noire de la baie de Loti. Ces derniers temps, une poignée de grains de sable avait grippé l'implacable mécanique qu'il avait mise en place depuis des mois. S'il laissait faire, tout l'édifice s'effondrerait. Il n'avait pas le choix. Léane avait retrouvé la fille de Giordano, puis Mystique. Elle traquait Moriarty et se rapprochait dangereusement de lui. Elle avait de sérieux doutes. Il avait bien remarqué son manège dans l'après-midi, sa manière de tester son amnésie, ses regards de plus en plus suspects. Il imaginait le chaos dans sa tête chaque fois qu'elle se demandait si elle était bien face à son mari ou à quelqu'un d'autre. Elle aurait fini par résoudre le labyrinthe et découvrir qu'elle couchait avec l'homme qu'elle pourchassait. Ou alors, elle craquerait et balancerait aux flics la vérité sur le terrible sort qu'ils avaient réservé à Giordano. Dans les deux cas, l'impasse. David Jorlin redescendit et se dirigea vers la table du salon. Il observa la photo où l'on voyait ce quelqu'un d'autre, impossible à identifier, planté dans les ténèbres, en train de regarder son propre père s'enfoncer dans la vase en hurlant pour qu'on le pardonne. Mais il n'y avait pas eu de pardon. Il n'y en aurait jamais. Et si Moriarty avait pu faire souffrir son géniteur encore plus, il l'aurait fait. Sa mère, son père, son frère jumeau étaient enfin morts. La boucle était bouclée. Lui, le bâtard qu'on avait jeté, balancé dans une benne à ordures, l'homme qui n'existait pas, le Moriarty que tous traquaient, avait survécu et vaincu. David ferma les portes à clé, tira les rideaux et alla se servir un whisky, histoire de se donner un coup de fouet. Bientôt, il serait le seul propriétaire de cette splendide villa. Il hériterait de la fortune de sa femme et toucherait ses droits d'auteur jusqu'à la fin de ses jours. Il n'y aurait plus de nouveaux changements d'identité cette fois, plus de nouvelles mues. Il serait bien, ici. Il avala une large gorgée et réfléchit. Cette histoire de vidéo filmée au moment où son père biologique se noyait était certes un problème, mais Claude Morgan s'était avancé, seul, au milieu du chenal. Les policiers, flics, n'auraient d'autre choix que d'admettre qu'il s'était noyé de son propre chef. Le flic roux reviendrait nécessairement à la charge. David s'en occuperait, en temps et en heure. Grâce aux indices qu'il avait semés au fil des semaines avant de migrer sur Berck, les flics, limiers grenoblois, avaient dû remonter jusqu'à la maison de Vienne. Découvrir le corps carbonisé et impossible à identifier de Julianne, qu'il prendrait pour le sien grâce à l'ADN. Les jumeaux n'avaient peut-être pas les mêmes sillons digitaux, mais une empreinte génétique strictement identique. En pensant avoir la bonne réponse, forcément, la science allait enterrer définitivement David Jorlin. Moriarty et Alain Thomas l'accompagneraient dans sa tombe. Il posa son verre vide sur la table. Jusqu'à ces derniers temps, le plan s'était déroulé à la perfection. Il avait même réussi à se débarrasser du corps de Giordano sans trop de problèmes. Malgré la force de la police, de leurs analyses, malgré les fichiers administratifs, David les avait tous baisés jusqu'à l'os. Delpierre était mort. Janson croupissait au fond de sa cellule. De ces trois copains de Chambray qui, des années plus tard, avaient reformé leur clan, de ces trois hommes à la jeunesse anéantie, au passé en miettes, il serait le seul à s'en sortir pas trop mal. Les flics le croyaient mort. Tout le monde le croyait mort. Mais il était en vie. Comme disait Baudelaire, la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Mais il restait à s'occuper d'un dernier obstacle de taille. Léane. Il avait aussi un plan pour elle. Aux échecs, il fallait toujours avoir un coup d'avance sur son adversaire. Il s'habilla chaudement, n'oublia ni bonnet ni gants. Mena une recherche sur Internet au sujet d'Étretat et repéra rapidement l'endroit parfait pour le dernier acte. Le prestige, comme on disait en magie. Il trouva la boîte de Xanax de la romancière dans la salle de bain. Détacha trois comprimés de la plaquette, fourra le reste dans sa poche et redescendit au sous-sol avec une bouteille d'eau et un entonnoir. L'idée était d'une simplicité extrême, enfantine. Léane n'avait pas supporté l'annonce de la mort de sa fille. Après avoir ingurgité ses anxiolytiques, elle avait pris la route, direction Étretat, pour se jeter des falaises comme l'héroïne de son roman dans le manuscrit inachevé. Une fin tragique, digne d'une auteure de thriller au bout du rouleau. Il ouvrit le coffre, redressa le corps inanimé, écarta les mâchoires et poussa les cachets, comprimés, au fond de la gorge. Puis il versa de l'eau dans l'entonnoir en maintenant la tête fermement. Léane octa dans un réflexe sans se réveiller. Il connaissait les bons dosages et savait que Léane était sous l'emprise de ces pilules. Plus tard, les analyses toxicologiques confirmeraient la prise de médicaments quelques heures avant l'acte ultime. Suffisamment pour encourager le suicide. Mais pas assez pour être incapable de rouler. Encore une fois, la science agirait comme une graine dans l'esprit des flics pour orienter leurs déductions, les tromper. Il glissa le Zigzauer de Julianne dans la boîte à gants. Il prit la route à bord du 4x4 aux alentours de minuit, déclencha le GPS sur le téléphone de Léane. Dans moins de 3 heures, il serait à Étretat. Pas de neige, ni de verglas, météo plutôt clémente. Tout se dessinait sous les meilleurs auspices. Il n'emprunta que les petites routes côtières, augmenta le volume de la radio quand il entendit tambouriner dans le coffre. Léane hurlait au secours. Mais ça ne durerait pas longtemps. Julianne s'était arrêtée au bout de quelques minutes quand David l'avait emmenée de Berck à Vienne. L'un des plus grands tubes de Michael Jackson, Thriller, résonnait désormais dans l'habitacle. David Jorlin trouvait le hasard plus que troublant. Léane aussi devait entendre la musique. Le hasard. Il y pensa une bonne partie de la route. Dingue comme ça pouvait changer le destin. C'était comme un dé décidant pour vous. Chiffre 1, tu vis. Le 6, tu meurs. Que se serait-il passé, par exemple, si son jumeau était sorti avant lui du ventre de sa salope de mère? Comment aurait-il grandi? Évoluer. Aurait-il eu la belle vie de Julianne? Trois petites croix. David crispa ses mains sur le volant. Il entendait encore les aveux de son père alors qu'il lui écrasait le pistolet sur la tempe. David avait voulu savoir comment il était venu au monde, pourquoi ses parents s'étaient débarrassés de lui dans un sac poubelle. En larmes, Claude avait raconté qu'il n'avait jamais suspecté le déni de grossesse de sa mère. Un jour, il était rentré au domicile et avait découvert le carnage. Sa femme gisant au sol, inconsciente, un bébé entre ses... les jambes. Il l'avait emmené d'urgence à l'hôpital. L'enfant, Juliane, avait survécu. Jamais, absolument jamais, Claude n'avait entendu parler d'un frère jumeau jeté à la poubelle. Lui, en l'occurrence. Sa génitrice avait-elle réussi à se débarrasser du premier enfant, quelque part dans les ordures, sans que Claude soit au courant? S'était-elle rendu compte qu'un autre bébé arrivait au moment où elle était rentrée chez elle? Avait-elle alors essayé de le mettre au monde pour également l'éliminer? Peu importait pour David. Claude était autant responsable que sa génitrice. Il n'avait d'ailleurs pas beaucoup fallu pousser le vieux pour qu'il s'avance, s'engage dans la baie et finisse emporté par les courants. Mieux valait parfois mourir que vivre avec une insupportable vérité. Le hasard aussi. Quand il avait 4 ans plus tôt loué son appartement d'Annecy à la famille Morgan par une plateforme de réservation. Lui crêchait dans une vieille baraque à Vienne et matait les vidéos des locataires, grâce aux caméras cachées dans l'appartement. Il les avait vus, les Morgan, investir les lieux. Et par écran interposé, s'était retrouvé face à lui-même. Le choc. Il était alors allé fouiller au domicile de Burke. Oui, il avait bien un frère jumeau, un homme qui avait une belle jeune fille, une villa magnifique, mariée à une femme écrivain. Lui, l'enfant adopté et trouvé dans les ordures. Le caméléon aux multiples identités qui finissait ses soirées dans les abysses du donjon noir à s'abîmer toujours plus, se lacérer de désespoir, jouir de la souffrance des autres. Un vrai jumeau qui avait tout réussi, un frère identique, qui serait l'enveloppe parfaite pour une future transformation au cas où son futur business tournerait mal. Et quand effectivement le temps de la mue était arrivé, il était reparti, ou retourné, au domicile des Morgan, histoire de s'assurer que l'ADN était bien le même. Il avait alors récupéré des cheveux avec bulbe de Julianne Morgan et avait réalisé des tests par un laboratoire trouvé sur Internet. Aucun doute, Julianne et lui étaient génétiquement semblables. De vrais jumeaux monozygotes. La route s'éleva devant lui comme un mur d'asphalte, avant de basculer et de plonger vers un creuset où palpitaient, au loin, de timides lumières d'ambre. Étretat se mourait en contrebas, comprimé entre les parois de calcaire. Une gare était indiquée sur un panneau, mais David voulait éviter d'être aperçu dans le coin au retour. Quand le moment viendrait, il prendrait le train à la gare de Fécamp, à une 15aine de kilomètres. Il avait déjà en tête de regagner les voies ferrées par le chemin qui existait le long des falaises. Il se noierait alors dans la population des travailleurs du matin, descendrait à Abbeville et emprunterait un taxi jusqu'aux abords de Burke. Il finirait à pied, par la plage. Il avait embarqué suffisamment d'argent sur lui pour ne laisser aucune trace informatique. Quant à son téléphone portable, il l'avait placé sur la table de chevet à la villa. Officiellement, tandis que Léane se jetait des falaises, il dormait. Le crime parfait existait. Il en était le réel metteur en scène.